Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Péloïs Siminaïk, Jean-Guy Pinette. C'est quelqu'un que je connais depuis plus de 40 ans. C'est un survivant des pensionnats autochtones. Il va nous raconter son histoire, c'est très intéressant. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène de son sujet la santé mentale chez les peuples autochtones. On commence en chanson avec Miels, la chanson s'intitule « Sick ». Bienvenue à Folie douce.
C'est l'émission qui vise l'authenticité et se vend de fraîcheur quand il est question d'information en santé mentale.
C'est avec un bonheur incommensurable que je reçois mon ami depuis plus de 40 ans, Jean-Guy Pinette. Bienvenue à l'émission.
Bienvenue, merci.
Ça fait longtemps. On a juste pour faire une petite histoire là. T'es originaire de Malio-Ténam, je pense, tout près de Sept-Îles. T'es autochtone. Tu fais partie des Premières Nations. À l'époque, dans les années 80, on a fait de la radio ensemble. À l'époque où je participais à l'émission Radio Jeunesse, toi aussi, tu participais en tant que justement autochtone d'origine. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Là, t'es avec nous dans le studio pour Folie douce. Et je veux mentionner aussi ton nom en Innu, c'est Péloïs Siminaïk, c'est comme ça qu'on dit, hein? C'est bien ça?
Oui.
C'est ça. Alors, j'aimerais ça que tu nous... on va parler, évidemment, de plusieurs enjeux, plusieurs... mais en même temps, c'est important, je pense, de parler de santé mentale, de parler de d'émotions, puis au niveau des peuples autochtones. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'abord sur ton parcours, parce qu'on va mieux comprendre qui tu es?
C'est sûr que pour moi, quand je suis arrivé ici il y a 40 ans, là, j'ai participé à un beau projet à Montréal, puis avec les jeunes ici qui dans le temps, là, puis j'ai beaucoup aimé l'expérience, puis très apprécié, mais quand je suis parti de Montréal, je suis retourné dans ma communauté à Maliutenam, puis là, quand j'étais jeune, puis là, j'étais un peu révolté à un moment donné dans ma vie, puis j'ai commencé à consommer, puis pas à peu près, là, puis... J'ai bu énormément, puis j'ai bu en tout à peu près un bon 7-8 ans, là.
Okay.
En 7-8 ans, là, j'ai consommé énormément, puis j'ai eu beaucoup de problèmes à un moment donné. À un moment donné, j'avais fait une dépression. Une grosse dépression, là, qui a duré 7-8 ans, puis je voulais rien savoir, parce qu'à un moment donné, moi, quand je suis arrivé dans ma communauté, là, ce qui s'est passé là-bas, là, à un moment donné, les gens m'ont fait confiance énormément, puis j'ai fait un peu de politique là-bas. Là.
Okay.
J'ai été élu comme conseiller. J'étais conseiller, puis là, quand j'ai rentré comme conseiller, j'ai rentré comme premier conseiller. Puis là, j'étais tout surpris, moi, tout fier de ça. Puis à un moment donné, j'ai perdu la tête complètement. Puis je savais pas trop que c'était quoi être conseiller, là. Puis c'était immature, ben raide, là. Puis je savais pas trop.
T'étais encore assez jeune? Quand
très jeune. J'étais très jeune. J'avais 24 ans quand été élu, là.
Okay.
Puis j'avais des responsabilités. Puis je ne savais même pas comment ça servait à quoi là, être responsable dans ce temps-là.
Ouais,
là.
Ouais, c'est puis, ça. Niveau municipal, en fait, c'est ça?
Oui, au niveau pas municipal, c'est plus nous autres, là, dans le système politique, là, c'est bien différent. Là, on n'est pas une municipalité.
Non, c'est ça.
On est une communauté, nous autres. Là.
C'est presque un État dans l'État. C'est un peu une communauté qui se gère, qui s'auto-gère, quoi, c'est
ça? Oui, on s'auto-gère, puis surtout dans les services, on importe, par exemple, okay. L'habitation.
Okay.
Développement économique, les règlements, puis aussi ce qui n'y a pas dans les municipales, là, c'est les niveaux territorial.
Oui, oui, c'est ça. C'est une autre façon de... En fait, c'est ça, vous avez aussi une autonomie comme peuple, là, dans le fond, que vous êtes une des 11 nations au Québec, en fait, c'est un peu ça, là.
Oui, oui, on est un des nations, là, mais en plus, nous autres, on se considère comme un gouvernement.
Oui, c'est ça.
Un gouvernement, puis qu'on cherche à avoir... À être autonome, là.
Ouais.
Autonomie, là. Il y a eu des négociations. Bon, on est encore en négociation avec les gouvernements. On était en négociation maintenant qu'on dirait que c'est comme arrêté, là.
Ouais. Mais,
avec ça, là. On attend toujours, là, qu'est-ce qui va se passer avec ça. Là.
Pour en revenir à ton histoire, en fait, moi, c'est ça, j'ai des bons souvenirs de toi à l'époque, puis je me souviens que ça apportait justement un grain de sel qui était intéressant d'amener le côté, parce qu'on connaît pas beaucoup. Tu sais, je trouve que, tu sais, on parle depuis quelques années, on parle de réconciliation, là. Tu sais, il y a eu une commission là-dessus. Là, chaque 30 septembre, c'est célébré aussi. Je pense que tu assistais à Montréal le 30 septembre 2024 à une journée, justement, des survivants. Puis il y a quelque chose qui m'a touché que tu as écrit sur le web. Je vais le citer, si tu permets. Tu dis « Le 30 septembre 2024, une grande journée pour les survivants des pensionnats indiens. Je suis un survivant du pensionnat indien de Maliutenam. Enfin, je ne comprenais pas ce qui se passait. On me disait que j'allais être bien et au chaud. Ce fut le contraire. J'avais froid la nuit. Personne pour me protéger et m'aimer. J'étais seul au monde. Je n'étais qu'un enfant. » J'ai trouvé ça beau, ce que tu as écrit. Puis je pense que on commence à peine à comprendre toute la souffrance que plusieurs personnes des peuples autochtones ont pu vivre. Est-ce que tu peux nous en parler un peu sans non plus...
Dans les années 2010-2013, j'étais... il y avait la commission Vérité-Réconciliation.
Ouais.
Moi, là-dedans, là, j'ai participé comme témoin. Puis il y a eu une grosse réunion à Montréal dans ce temps-là, en 2013. Puis moi, j'ai témoigné. J'ai témoigné que comme quoi que ce que j'ai vécu au pensionnat indien à Maliutenam. Puis ce que j'avais demandé à la commission, c'est que à un moment donné, qu'on ne puisse pas oublier. On ne peut pas oublier ça, cette partie de l'histoire, parce que ça fait partie de notre histoire. Puis il fallait qu'on en parle, il fallait... faire des choses pour ça. Surtout, moi, ce que je souhaitais à cette époque-là, c'est qu'on n'oublie pas les survivants des pensionnats, parce que c'est eux autres qui ont vécu des grosses sévices.
Ouais.
Autant au niveau physique, mental, spirituel, sexuel, puis tout, là.
Ouais. Mais à l'époque, tu sais, justement, tu étais là. Est-ce que tu peux attribuer certaines de tes problématiques, tu disais, tu consommais, tout ça, est-ce que tu peux attribuer ça à ça? Est-ce que ça t'a un peu brisé, excuse l'expression?
Oui, vous savez, non, je me rendais pas compte à cette période-là, mais aujourd'hui, quand je regarde, là, ça fait quand même plusieurs années que je consomme plus, là.
Ouais.
Puis ça m'a, quand j'ai participé à ça, la commission Vérité Réconciliation, ça avait éveillé des vieux souvenirs.
Ouais.
C'est là que j'ai pris conscience comme quoi que je pouvais souffrir de la, ils appellent ça de la syndrome post-traumatisme.
C'est ça. On n'a pas besoin d'avoir eu un accident ou quelque chose. Ça en est du traumatisme. Et puis, il y a comme un syndrome qui suit, là.
Il y a un exemple que je pourrais te donner, moi, qui m'a fait le plus mal. Moi, j'ai travaillé à l'école. J'ai travaillé dans les écoles primaires dans ma communauté. Puis, moi, je voyais souvent des enfants avec des 4 ans ou des 5 ans. Puis, à un moment donné, je rentre dans une classe de 4 ans, puis ça me fait quelque chose en dedans.
OK.
Ça me touche vraiment parce que je regarde ces enfants. Puis, à 4 ans, je me dis, c'est encore des bébés. Puis là, je pense à un de mes frères qui était pensionnaire, lui aussi. Mm-hmm. Mais il est décédé.
OK.
Il est décédé, c'est mon frère, en 2012, il a surconsommé.
OK.
Puis le cœur a lâché.
OK.
Puis quand j'ai vu ces enfants-là, moi, à 4 ans, c'était encore des bébés. Puis là, je me suis dit, mon frère, il avait cet âge-là quand il est rentré au pensionnat. Lui, nous autres, on est partis de Schoefferville. Pour aller à Malieutenam, c'était une grosse distance, là. Les parents, ils n'étaient plus là. Il n'y avait plus rien pour nous autres, là. Qui allait nous protéger? Qui allait nous aimer? Il n'y avait personne. On était juste nous autres, là.
Et ça, c'était forcé, d'une certaine façon, par le gouvernement. C'était ça, si on comprend bien l'histoire? Ou...
Moi, ce que je comprends aujourd'hui, je te dirais, Yvan, à cette époque-là, moi, je me rappelle en 1968... Le curé de la paroisse arrive chez moi, il fait beau dehors, il me dit, viens-t'en mon garçon, je veux te parler. Moi, je pensais seulement qu'il allait faire un couple de tours dans le village, et peut-être quelque chose d'important à me dire.
Ouais.
C'est pas ça qui se passe, il m'amène au train.
OK.
Encore là, dans le train, je me dis...
Là, tu savais pas qu'il t'amenait là-bas, là?
Non, je le savais pas tout. Puis là, j'arrive au train, puis là, il y avait beaucoup d'enfants. Ouais. Il y avait beaucoup d'enfants dans le train, là, puis j'embarque, puis on s'amuse, puis tout le long, là, ils nous descendent, puis nous autres, on passe pas à ça, nous autres, là. Moi, je pense pas à ça, là, qu'on m'amène là. Puis en arrivant à cette île, il y a un autobus qui est là.
Mm-hmm.
Ils nous font embarquer l'autobus. Là encore, là, je suis pas conscient, là, je suis content, je m'amuse, je suis content. Puis... j'arrive en pensionnat, puis là, c'est le soir, là. C'est là que je me rends compte, là. Il y a quelque chose qui se passe.
Puis tes parents étaient au courant à ce moment-là? Comment ça se passait dans les communautés? Là?
Quand ça s'est passé, moi, mes parents étaient présents.
OK.
Mais ils n'ont rien dit. Ils m'ont même pas dit.
OK.
Quand je suis parti de... Quand le curé m'a amené, je suis parti avec rien. Je suis parti comme ça.
Oh ouais.
J'avais pas de bagage.
Puis t'avais quel âge déjà, tu dis?
J'avais 7 ans.
7 ans, c'est incroyable. C'est marquant, là, ça marque.
Oui, ça marque. À chaque fois quand je parle de ça, ça vient me chercher, ouais. Des fois au niveau émotif. Mais ce qui m'a rendu, moi, là-dedans, là, c'est comme... j'ai beaucoup senti de l'abandon.
Oui.
Dernièrement, là, j'ai beaucoup senti de l'abandon.
Ça revient comme ça, probablement que c'était enfoui en toi, puis ça remonte, là, ça,
oui,
c'est ça?
Parce que, excusez, quand j'étais au pensionnat à cet âge-là,
mm-hmm.
Je me disais souvent, quand je reverrai mes parents?
C'est ça?
Quand je retournerai à la maison?
Puis il n'y avait pas à l'époque d'Internet, tu ne pouvais pas communiquer facilement avec eux autres, il n'y avait pas de téléphone.
Non, il n'y avait rien.
Quoi que ce soit. Là.
C'était le silence complet.
C'est ça.
Pendant toute la durée que j'étais là, moi, je ne me rappelle pas. Je me rappelle pas de mes parents de m'avoir appelé au téléphone, de m'avoir écrit. Non, ils
Puis les gens de la place, les dirigeants, vous disaient pas rien ou vous posiez pas de questions parce que vous étiez des enfants, j'imagine. Vous saviez pas trop qu'est-ce qui se passait?
On savait pas. Puis moi, ce que je me raconte de ça, c'est que les enfants qui étaient dans leur dortoir, j'entendais des fois les enfants pleurer.
Ouais.
Même moi, je pleurais des fois, là.
Ouais.
Ouais. Puis il fallait pas trop pleurer parce que si tu pleurais, là, il y a le frère, là, qui passait puis il pouvait te dire, te donner une taloche, là.
OK.
Pour que tu arrêtes de pleurer pour pas que les autres, tu le déranges.
Est-ce que tu as vu ça? Parce que je sais que d'après tes écrits aussi, il semble que tu es très aussi. Tu as toujours les croyances, je pense, de ton peuple, mais tu as aussi les croyances chrétiennes. Tu sais, on le voit, puis je pense que tu fais la différence entre ce que c'est la chrétienté puis les gens, peut-être les hommes, les hommes de l'époque. Mais est-ce que tu crois que ça a quand même influencé ta foi ou ta façon de voir la vie, tout ça?
En 1900, avant que j'arrive à Montréal, moi, j'ai été étudié à Sherbrooke.
OK.
J'ai étudié à Sherbrooke, là, j'ai été là pendant 3 ans. Puis j'ai eu la chance de connaître un prêtre. Ce prêtre-là, là, il était vieux, puis là, j'aimais ça parler avec lui. Il m'a parlé de l'Église à un moment donné. Il disait que il y a des choses qui se passent dans l'Église. Mm-hmm. Il y a des choses qui se passent, puis c'est pas beau. Lui, ce qu'il me disait, là, de ne pas le mettre ça, de ne pas accuser Dieu. Les gestes qui ont été posés, ce sont des humains qui l'ont posé, ces gestes-là.
C'est de faire la différence entre...
Faire la différence. Ça m'a beaucoup aidé ma foi.
Effectivement.
Ça m'a beaucoup aidé. Puis là, il m'a dit après, si Dieu est à 99,9%, qu'il est pas d'amour, qu'il y a de l'amour, c'est pas Dieu.
Ouais.
Lui, ce qu'il me disait, il faut qu'il y ait 100%.
Jean-Guy, permettrais-tu de rester à l'émission? J'aimerais ça qu'on fasse un deuxième segment plus tard. Je trouve ça intéressant, puis on a expliqué ça, t'as expliqué ça, mais j'aimerais ça voir aussi l'espoir dans tout ça, puis ta vie d'aujourd'hui, etc. Est-ce que tu acceptes de rester?
Oui, je vais rester.
D'accord, merci beaucoup. On se reparle plus tard.
OK.
OK. La routine. Quand on y pense, inévitable comme la dérive des continents. J'étais ton amant, ouais. J'suis ton confident. T'attendais de mes nouvelles, maintenant t'attends mon silence. Oh, que puis-je faire pour te rallumer? J'ai rugi pour une nouvelle gueule, j'ai pas le budget. J'suis le même mec tous les jours, j'peux qu'assumer. Mais bébé, y'a pas si longtemps, tu m'as adulé. Bien sûr que si, tu me courais après dans les bars. C'était des siècles avant que t'entendes mes bruits barbares. Tous les matins dans la salle de bain, et je sais bien que ça n'arrange rien. Piégé par la routine comme des débutants. Faut tout reprendre à zéro comme des débutants. Piégé par la routine comme des débutants. Faut qu'on s'aime à nouveau comme des débutants. Mais je t'ai ouvert ma vie, mon intimité, mon train-train. On partage nos jours comme on partage le pain. Je t'ai laissé prendre un abonnement illimité à ma gueule. Au début, c'est trop cool, on se sent jamais seul. Et un beau jour que j'ai pas vu venir, je suis devenu famille. Lié pour toi, y'a rien de pire qu'être habituel. Comme ton métro de 8 heures, habituel. Comme ton badge, ton ordinateur. Et depuis, tout s'enchaîne, vilaine suite logique. Nos soirées spaghetti devant web, série comique. Mon menace du dimanche et sexe épisodique. Tu me caches tes sentiments, je te cache mon historique. Oh, de toute façon, tu connais ma vie. Tu ressens plus rien quand tu me vois, même quand je suis sans mes habits. T'es blasé toutes ces fois où j'ai perdu mes nerfs. Tu me connais mieux que ton phone, c'est pour ça que tu préfères. Piégé par la routine comme des débutants. Faut tout reprendre à zéro comme des débutants. Piégé par la routine comme des débutants. Faut qu'on s'aime à nouveau comme des débutants. Faut que je te surprenne. Ok bébé, ce ce soir je t'emmène en boîte de nuit. Lâche ton portable ce soir, tu lâches prise, enfile ce que tu as de plus alléchant. On va faire comme si on se connaissait pas vraiment. Ok bébé, ce soir je t'emmène en boîte de nuit. Lâche ton portable ce soir, tu lâches prise, enfile ce que tu as de plus alléchant. On va faire comme si on se connaissait pas vraiment. Douce votre carré de boule, je suis méconnaissable, je me déhanche devant toi, chemise ouverte, mode bestial. Le mal bêta reste dans les vestiaires, y'a rien de surjoué, non, rien d'éphémère. Laisse-moi l'exprès des man spray des t'encercler, j'en perds mes shooters par terre. Je suis même pas sûr que c'est toi que je sers. Oups, non, c'est plus toi, t'es parti déjà. Mince. Allez, reviens, que je te surprenne. Reviens, que je te surprenne. Reviens, que je te surprenne. Reviens, que je te surprenne.
Vous avez des choses à dire? Joignez-vous à notre groupe Folie Douce sur Facebook. Parlons santé mentale.
C'est maintenant le moment du segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Alors aujourd'hui, ton sujet, la santé mentale chez les peuples autochtones.
Oui, et c'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Recours aux connaissances autochtones pour lutter contre la maladie mentale dans les communautés autochtones ». J'ai pris ça sur un site qui s'appelle « Infirmière ». -canadienne.com. Et c'est écrit par une dame du nom de Gabrielle Barrington Moss, qui est enseignante en soins infirmiers à l'Université McEwen à Edmonton, en Alberta.
Je pourrais pas dire qu'il y a énormément de documentation sur la santé mentale des Autochtones. En tout cas, j'en ai pas vu souvent, puis j'ai l'impression que c'était tabou. Puis c'est ce qu'on va peut-être voir dans ton article.
Je sais pas, mais j'ai dû parcourir, oui, un certain nombre d'articles, mais je trouve l'article que je vais entamer à l'instant intéressant parce que on donne, je trouve qu'on brosse un bon portrait de la situation et on apporte de l'espoir plus loin, tu vas voir, dans des projets, des idées de projets.
C'est bien.
Alors, Mme Barrington Moss commence en nous disant « Les peuples autochtones du Canada ont en moyenne une espérance de vie inférieure de 12 ans à celle des non-autochtones. Parmi les causes de mortalité précoce, on compte des maladies chroniques traitables comme la maladie mentale ainsi que des dépendances et des tendances. » La perte de la maîtrise de la langue et de la culture, résultat de politiques assimilatrices qui ont donné lieu à des pratiques telles que les pensionnats, se traduit par un traumatisme culturel à grande échelle et un manque de cohésion sociale qui se traduisent par une diminution de la résilience, une diminution de la force de caractère pour surmonter les dépendances et des taux plus élevés de violence familiale. Associer des pratiques et des comportements de santé personnelle à de mauvais résultats en matière de santé chez les peuples autochtones n'est plus un discours acceptable et ne permettra pas une réconciliation constructive et réparatrice. La littérature soutient fortement l'impératif moral d'explorer, de comprendre et de mettre en œuvre une politique de santé axée sur l'équité qui aborde la maladie mentale autochtone. Le développement ultérieur de troubles liés à la consommation de substances dans cette population est presque toujours enraciné dans une histoire d'oppression coloniale, d'érosion des connaissances culturelles et des modes de guérison et notamment de traumatisme. Les maladies mentales dans les communautés autochtones se manifestent principalement sous la forme de tendances suicidaires chroniques, d'alcoolisme, de violence sous toutes ses formes, de racisme intériorisé, de troubles de stress post-traumatique et de troubles dépressifs majeurs. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies mentales autochtones sont des maladies de longue date liées aux inégalités économiques ou au faible niveau d'avancement scolaire, à un fort sentiment de conflit identitaire interne et à la dépendance du gouvernement fédéral en matière d'aide sociale et de bien-être. L'érosion culturelle et ethnique est également étroitement liée à un risque accru de suicide chez les jeunes autochtones, car ils ont quitté leurs terres et leurs pratiques traditionnelles pour s'installer dans des colonies forcées et des structures sociales artificielles. Il est important de reconnaître que la maladie mentale est un baromètre ou un test décisif qui démontre directement l'effet du stress et de la détresse sur le niveau actuel d'adaptation et de résilience d'un individu ou d'une communauté. Les taux alarmants de maladie mentale dans les communautés autochtones du Canada mettent en évidence une culture dont les stratégies et les systèmes d'adaptation ont été mis à rude épreuve à un tel point que la capacité de voir une voie claire et sans obstacle vers une santé globale semble probablement insurmontable. On voit que cette dame n'est pas toujours très, très optimiste.
Non,
on va voir plus loin, oui.
Oui, oui, sûrement qu'il y a de l'espoir. Là. C'est sûr qu'il y a un constat assez quand même troublant, ça, c'est sûr. Là.
Oui. Alors, l'article continue en disant « Les connaissances autochtones, la science, les méthodes traditionnelles de guérison et d'éveil et l'identité fondée sur la terre seront des éléments de base essentiels à la création d'un cadre pour promotion de la santé. » L'absence d'un sens clair de l'identité, de la culture et de la position dans le monde peut laisser un individu sans attache et vulnérable à une crise d'identité, ce qui à son tour peut marginaliser considérablement sa capacité à être résilient face au stress et à la détresse. L'identité personnelle est ancrée et développée dans l'environnement familial. Les enfants sont vulnérables aux expériences de vie négatives qui peuvent se présenter lorsqu'ils grandissent dans un foyer qui manque de stabilité et de nature ancrée des membres de la famille qui ont un fort sentiment d'identité, de valeur et de place dans le monde. La création d'une initiative de promotion de la santé, centrée sur la culture, basée sur les connaissances autochtones, permettrait de décortiquer les contextes historiques, de se concentrer sur le « ce qui est » contemporain et d'avoir un œil averti sur « ce qui pourrait être » dans un avenir ouvert à la guérison et à la prospérité. Maintenant, les projets éclairage et élévation. Alors, illumination et élévation sont des initiatives de promotion de la santé conçues pour remédier aux inégalités en matière de santé des Autochtones. Ces stratégies de promotion de la santé se concentreraient sur deux axes importants dont je vais vous parler tantôt au retour.
Oui, dans l'espresso allongé, on va poursuivre. C'est super intéressant, la santé mentale chez les peuples autochtones. À venir dans l'émission, ce sera la deuxième partie avec Péloïs Minaï, qui est survivant des pensionnats autochtones et nous donne espoir dans ce deuxième segment. À l'espresso allongé, Pierre Laporte continue avec le sujet « La santé mentale chez les peuples autochtones ». Vous entendrez aussi en chanson « Si jamais » de Laurent Saint-Martin et « Les astres » de Laura Cahen. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne@qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. De retour au micro dans quelques instants.
Le retour au micro à Folie Douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles.
Toujours en compagnie de mon invité et ami, Péloïs, connu sous le nom de Jean-Guy pour moi, mais ton vrai nom. Et j'aimerais ça d'ailleurs que tu m'expliques pourquoi ce prénom-là, pourquoi on t'a donné ce prénom-là.
Oui, le souvenir que je me rappelle, là, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, là, qui il m'a donné ce nom-là quand j'étais tout petit, là. Il m'a appelé Pelohis. Pourquoi Pelohis? Parce que les autres, là, ma grand-mère, mes grands-parents, les autres, c'était des chasseurs, cueilleurs, chasseurs. Les autres, là, ils vivaient dans le bois.
Mm-hmm.
Puis quand ils descendaient les rivières, là, pour monter aux abords de la mer, il y avait un commerçant. Un commerçant, là, qui s'appelait, les Inuits l'appelaient Pelohis. Puis Pelohis, ça devait être pas grand, là. Puis il y avait une démarche qui ressemble beaucoup à moi. Quand il marchait, là, je marche comme lui.
OK.
Puis c'est pour ça que ma grand-mère m'a appelé Pelohis. Mais ce que je suis content de ça, je te dirais, Yvan, c'est que mes oncles, trois de mes oncles, là, m'ont toujours appelé Pelohis. Et puis ça a resté ce nom-là. Puis moi, j'en suis très fier. Même quand je t'ai raconté tantôt, quand j'étais étudiant à Sherbrooke, j'avais connu une fille là-bas.
Mm-hmm.
Puis lui, à un moment donné, il me pose la question, c'est quoi ton nom? Puis je dis, Jean-Guy Pinette. Mais là, il retourne la question. Non, c'est pas ça que je veux savoir. Moi, ce que je veux savoir, c'est ton nom indien. Là, j'étais un peu comme... un peu, il m'a éponné.
Un peu surpris.
Ouais, très surpris. Puis là, j'ai réfléchi, puis j'ai pensé à ma grand-mère.
Ouais.
Puis ma grand-mère m'a dit, « Pelohis. » Puis j'ai dit ça à mon ami, je m'appelle Pelohis. Pelohis Kashiwas Manaik.
C'est quelque chose que tu n'utilisais pas, toi?
Non, je n'utilisais pas.
Tu n'utilisais jamais parce que tes papiers, ton identification, c'était Jean-Guy Pinette, toujours?
Oui.
Jusqu'à aujourd'hui, j'imagine?
Oui, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours comme ça.
C'est ça.
Mais quand je me présente maintenant, j'avais honte de ça, là.
Oui.
J'avais honte de ça, là.
Alors que...
Maintenant, là, maintenant, je n'ai plus honte de ça.
Tu pourrais même changer, tu sais, c'est comme ça. Mais en même temps, tu sais, ça se fait, des changements de nom. Mais tu sais, c'est sûr que tu as tellement été habitué, je pense, de ça. Moi, je te connaissais sous le nom de Jean-Guy. Ben, même maintenant, je te vois, je pense à Jean-Guy, mais il faut se refaire l'idée que ton vrai nom, ton nom original, tu sais, c'est Pelohis. Hein.
Cet ami-là que je te parle, là, cet ami-là m'a ramené sur mes origines.
Ouais.
Sur mon identité.
C'est ça, c'est important.
Elle ne m'a jamais appelé Jean-Guy.
OK.
Elle m'a toujours appelé Pelohis. Aujourd'hui, je lui rends hommage.
Oui.
Parce qu'il a éveillé quelque chose en moi.
Absolument.
Donc, j'ai l'ignoré.
La fierté, puis l'origine de savoir. Puis en plus, il y a un sens. Tu sais, comme tu nous le rappelles, il y a vraiment un sens. C'est ta grand-mère, c'est d'avoir vu quelqu'un qui avait la même démarche que toi. Donc, je trouve que ça parle plus encore, là. Mais j'aimerais ça que tu me racontes, parce que tantôt, dans le premier segment, tu racontais qu'il y a quand même, tu as eu plusieurs problématiques, tout ça. Mais on veut donner de l'espoir. Après cette période-là où tu as beaucoup consommé tout ça, qu'est-ce qui a fait que tu as pu te rebâtir ou tu as pu te rétablir? En fait, tu te sembles assez bien en forme aujourd'hui.
Moi, ce que je me rappelle, quand j'ai atteint mon bas-fond, je suis allé voir... Là, pour moi, là, dans ma tête, là, c'était comme... Je me suis dit, c'est fini.
Mm-hmm.
C'est fini l'alcool, c'est fini la drogue, c'est fini tout mon itinérant, parce que je suis devenu, à force de boire, un itinérant dans ma communauté.
Ah oui? Okay.
Oui, j'étais itinérant à un moment donné.
Ah oui?
Puis même, j'avais tenté je voulais mourir. Moi, j'ai tenté des tentatives de suicide.
C'était dans les bas fonds, là?
Oui, j'ai failli passer à l'acte à un moment donné, dans la consommation. Puis là, cette journée-là, je vois toujours me rappeler de cette date-là, moi, hein, le 1er juillet 1989. Ça, c'est la date pour moi qui est importante dans ma vie. Parce que cette journée-là, j'ai décidé que, j'arrête tout ça. Cette journée-là, ça a été très spécial parce que je suis allé voir mon frère un après-midi. On a passé toute l'après-midi ensemble, il n'y avait personne dans la maison. J'ai parlé avec mon frère, puis j'ai parlé de tout ce que j'ai, de toutes les choses qui m'ont dérangé. J'ai parlé de toutes les choses qui me faisaient mal en dedans. J'ai tout à... Mais ce qui est bizarre à travers ça, j'avais ma belle-sœur qui était là. Quand il m'a vu rentrer, il a sorti tout de suite.
OK.
Mon frère a dit, attends. Voilà. Il a tout fermé les rideaux de chez lui comme s'il n'y avait personne. On était juste deux. C'est drôle à dire, hein. J'ai resté là de 1 heure l'après-midi. Jusqu'à 7 heures le soir. à parler, à broyer, à crier, à taper du pied, à frapper.
T'as sorti tout ce qui pouvait te déranger. Oh, ouais. Puis t'avais confiance en ton frère?
Oui, j'avais. Parce que lui, mon frère, il travaillait comme travailleur social.
OK.
Il faisait de la relation d'aide.
Fait qu'il était déjà, tu savais que tu pouvais te confier à lui.
Oui, puis, parce que je lui faisais confiance.
Oui.
Puis je l'aime beaucoup, mon frère. Il est encore en vie, lui.
Oui.
Mais je l'aime beaucoup. Puis il était chef, lui, de la communauté.
OK.
Puis là...
Puis d'où t'es venu cette... tu sais, je sais que t'en avais peut-être assez, tout ça, mais encore, il y a des gens qui réussissent pas, même si on est dans les bas-fonds. Est-ce que tu as senti quelque chose? En fait, tu te dis, ouais, faut que je le fasse parce que c'est fini, sinon.
C'est que mon frère, après avoir parlé avec lui, il m'a dit, quand tu vas rentrer chez nous, là, mets-toi à genoux. Récite le Notre Père. C'est ce que j'ai fait.
Ouais.
Quand j'ai rentré, là, il était vers 7 heures le soir, là, puis il faisait beau au soleil, là, au coucher du soleil. Moi, ce que j'ai fait, je me suis mis à genoux. Puis j'ai récité le Notre Père, mot par mot. J'ai vraiment pris mon temps, là. Puis après, là, j'ai tombé endormi. J'ai dormi pendant un bon 15 heures. Puis le lendemain, c'était magané. Je me promène dans la communauté, puis les gens buvaient. Puis là, un de mes cousins me dit, il y a de la bière dans le frigidaire, si tu veux t'ouvrir une. J'ai dit à mon cousin, non, j'arrête moi. Je suis plus capable, moi. Après, je suis allé voir ma tante. Ma tante, elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a aidé souvent à vouloir que j'arrête de boire.
Elle t'a compris aussi, sûrement qu'elle comprenait ton cheminement.
Hein? Oui. Après, après ça, moi, en plus... Dans cette période-là, j'ai étudié. J'ai étudié au cégep pour devenir éducateur spécialisé. Puis ça faisait comme 2 semaines, là, j'allais pas à mes cours parce que j'avais fait une grosse rechute. Puis là, j'arrive à l'école, puis j'avais mon frère. Oui, mon frère, là, m'a torturé. Mais je l'aimais bien pareil parce que lui, là, j'ai parlé de mon frère. J'ai dit à mon frère, je sais pas si je devrais y aller à l'école parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas été. Lui, ce qu'il m'a dit, vas-y donc, tu vas savoir qu'est-ce qu'ils vont te faire.
Ouais. Si tu n'y vas pas, tu ne le sauras pas.
Oui, vas-y.
C'est ça.
Quand je suis arrivé à l'école, là, au cégep, il y avait des étudiants, là, ils m'ont accueilli vraiment. Là. Ils
ah
m'ont
ouais.
vraiment accueilli.
À bras ouverts.
À bras ouverts, puis ils m'ont dit, pendant ton absence, là, inquiète-toi pas pour ça, on ouais. va t'aider.
C'est ça, on va donner les notes ou des choses pour te rien manquer. Là.
Oui, oui, puis ça...
Ça fait chaud au cœur.
Vraiment, je ouais. me suis senti accueilli,
ouais.
vraiment accueilli, là, puis ils étaient contents de me revoir.
Ouais.
Puis j'ai fait ce cours-là, c'est un cours intensif, j'avais fait un certificat en éducation spécialisée,
ouais.
c'est un cours intensif qui a duré à peu près 2 ans intense. On étudiait pendant tout, sûrement 2 ans de temps, là,
ouais,
faire
ouais.
des travails, là, puis ça a très bien été. J'étais ici en 90 à Montréal,
okay.
à un stage de 6 mois. Puis j'ai pu terminer.
Ça t'a permis de revenir un peu sur Terre, là, parce que tu sais, on perd un peu la carte, mais il reste encore quelques minutes. Péloïse, je vais te nommer par ton vrai nom. Qu'est-ce que tu peux dire? Je sais qu'il y a beaucoup de problématiques. Il y a beaucoup de belles histoires, mais il y a beaucoup de problématiques de justement à cause de l'alcool, de la drogue, tout ça, dans certaines communautés, auprès des jeunes. Qu'est-ce que tu pourrais dire si quelqu'un nous écoute, parce qu'on est diffusé un peu partout?
Mm-hmm.
Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes-là de dire pour qu'ils s'en sortent, pour qu'ils vivent une meilleure vie? Comment tu pourrais les encourager?
Moi, je rencontre beaucoup les jeunes de ma communauté. Ce que les jeunes ont besoin, c'est d'être écoutés. Ils ne veulent pas recevoir de sermons, là. Parce qu'ils arrivent de chez eux, là, ils se font sermonner à 5 000 à l'heure.
Ouais.
Mais tandis que moi, quand je les rencontre là, à l'épicerie, à côté de l'épicerie, là, en train de son macaner, je l'écoute.
Mm-hmm.
J'écoute, ils ont besoin seulement d'être... Ils ont besoin d'être écoutés. Ils ont besoin de pas se sentir jugés. Puis ils ont besoin surtout d'amour avec eux autres, là, d'être amoureux, puis de respect surtout. Qu'ils soient respectés.
C'est un peu aussi ce que tu nous racontais tantôt avec ton frère. Tu sais, t'as pu vider ton sac, t'as pu parler de tout ce qui te dérangeait. Il t'a laissé la chance de tout faire. Puis c'est peut-être ça qui a fait que ça te fait du bien pour aller de l'avant. Là. Ça fait que c'est ça, comme tu dis, il ne faut pas que les gens soient sermonnés, il faut qu'ils soient écoutés, puis le plus longtemps possible, autant qu'ils auront besoin, finalement.
Oui, c'est ça que j'ai fait. Je sais que maintenant, là, avec le temps, là, disons que ça fait comme 35 ans là, que je ne consomme plus. Oui.
Bravo,
là, j'ai tout arrêté ça. Ouais. Mais ça m'a permis aussi, moi qui n'avais pas d'identité, moi qui n'avais pas de fierté,
ouais,
avec la spiritualité autochtone, là,
ouais,
j'ai pu me rendre compte, prendre conscience que j'étais un Innu. Un Innu qui avait des compétences, des forces.
Une culture. Là.
Une culture,
bien,
oui.
Bien à vous, c'est ça, vous êtes un peuple unique. Là,
ouais. Mais moi, la spiritualité, parce que j'avais vécu, moi, des abus sexuels.
Mm.
Puis ça m'a fait mal beaucoup.
C'est sûr.
Beaucoup au pensionnat ou bien dans la communauté. Là, ouais. J'en ai vécu. Puis à un moment donné, il y a des cérémonies là-dedans qui se font, là, autochtones, là, puis ouais, ils sont très puissants.
Okay.
Puis moi, j'ai participé à cette cérémonie-là. Puis il y avait une dame là, qui... aujourd'hui, c'est ma grand-mère spirituelle. C'est elle qui m'enseigne sur la spiritualité.
Pour sortir ça, pardonner d'une certaine façon, d'être en paix avec soi-même avec ça, c'est ça aussi. Là. C'est important d'être en paix. Si on garde une rancœur, ça nous aide pas. Là.
Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? J'essaie de créer de l'espoir aux jeunes.
Ouais.
Parce que moi, j'étais en désespoir. Ouais. Mais je sais arrête de consommer,
mm-hmm,
que tu peux créer de l'espoir en toi.
Ouais. Je remercie énormément. Écoute, c'est presque tout le temps, mais ça a été une présence. Je suis reconnaissant que tu sois venu à Montréal. Ça fait longtemps qu'on communiquait ensemble, puis on se disait, t'es loin, là, près de cette île, puis nous, on est à Montréal, mais t'es de passage à Montréal, t'es venu à notre studio. Je trouve ça vraiment bien, puis j'espère qu'on va recommencer l'expérience. Tu seras toujours bienvenu au studio de Folie Douce. Ça me fait plaisir de te recevoir, en tout cas.
Ouais. Moi, à un moment donné, je ne sais pas, Yvan, mais je t'en ai parlé, je pense, à un moment donné,
ouais,
que tu puisses venir à la voie sur la Côte-Nord.
Si j'y vais, c'est sûr que je vais aller te rendre visite, c'est certain. Là, je te remercie d'avoir fait la politesse d'être ici. Puis j'espère que ça l'a aidé des gens, je suis certain, qui nous écoutent. Alors, merci beaucoup, Péloïs, que je veux dire. Mais je vais quand même dire Jean-Guy Pinette, parce que je vais m'habituer à ton vrai prénom. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
Je peux dire ça. Est-ce que je peux dire en Innu?
Oui.
À toi?
Oui, oui, bien sûr.
Yame Wenemsish Nuijewan.
Qu'est-ce qu'il veut dire?
À bientôt, mon ami.
Merci, mon frère, comme on dit. Merci beaucoup.
Nastesh.
À une prochaine.
Oui.
Au revoir.
Bye.
Le tort que je me donne à t'aimer. Et quand je pense à tout le bonheur que t'apporte à ma vie, je sais que tous nos souvenirs nous rendent encore plus forts. La route est longue quand tu es loin de moi. Et malgré tout, tu peux compter sur moi. Mais si jamais tu veux faire demi-tour, souviens-toi qu'ensemble on est plus fort. Si jamais t'en prends une autre dans tes bras, souviens-toi qu'elle t'aimera pas plus que moi. Pas plus que moi. Ah, ah. Quand j'imagine notre plus tard, je nous vois alterner nos soirs, à savoir qui fait la vaisselle après un bon souper chandelle. Et nos mamans au Ikea, où on meublera notre salon, en s'obstinant pour qui paiera pour la plus grande télévision. La route est longue quand tu es loin de moi. Mais malgré tout, tu peux compter sur moi. Mais si jamais tu veux faire demi-tour, souviens-toi qu'ensemble on est plus fort que tout. Mais si jamais je devrais endurer
cache.
Papier, ciseaux, pour savoir qui va se lever quand le bébé va pleurer. La route est longue, mais j'y crois vraiment fort. Et malgré tout, je t'aime un peu plus fort. Et si jamais tu veux faire demi-tour, souviens-toi qu'ensemble on est plus fort que tout. Et si jamais t'en prends une autre dans tes bras, souviens-toi qu'elle t'aimera pas plus que moi. Pas plus que moi. Non, pas plus que moi.
Vous êtes à Folie Douce, parce que la santé mentale nous concerne tous.
Nous poursuivons au micro avec l'espresso allongé et le sujet de toi, Pierre, la santé mentale chez les peuples autochtones. Tu avais commencé plus tôt dans l'émission.
Oui, c'est un article qui s'appelle « Recours aux connaissances autochtones pour lutter contre la maladie mentale dans les communautés autochtones ». C'est écrit par une dame du nom de Gabrielle Barrington Moss, qui est enseignante en soins infirmiers à l'Université McEwen à Edmonton, en Alberta.
En recevant cette semaine Péloïs, puis en amenant ces informations-là, je trouve que ça éveille les gens. Tu sais, on connaît pas tant les peuples autochtones, puis on connaît surtout pas tant la santé mentale. Je trouve ça intéressant de s'y intéresser, justement.
Mm-hmm. Alors, tantôt, j'avais commencé à vous parler d'un projet ou d'une initiative, comme on appelle souvent. Alors, ça s'appelle Illumination et Élévation. Alors, je disais que c'était des initiatives de promotion de la santé conçues pour remédier aux inégalités en matière chez les Autochtones. Alors, ces stratégies de promotion de la santé se concentreraient sur deux axes importants pour promouvoir le bien-être mental et les capacités individuelles et collectives et empêcher qu'une situation de crise ne se transforme en maladie mentale chronique. En mettant l'accent sur les connaissances autochtones comme fondement de l'initiative, Illumination et Élévation viserait à déconstruire les obstacles historiques et contemporains au développement de l'identité autochtone et par conséquent à la santé mentale et au bien-être mental. La célébration des connaissances autochtones détenues par les aînés et les experts tribaux réduit les obstacles à l'adhésion de la communauté. C'est le cas lorsque les membres de la communauté autochtone se connectent à un message partagé par une source fiable et respectée. Se connecter au message et considérer le détenteur du savoir comme un expert de son histoire et de son récit sont essentiels lors de l'élaboration d'interventions de promotion de la santé. Les aînés autochtones sont des détenteurs de connaissances qui possèdent l'expérience vécue des disparités en matière de santé, en particulier des disparités en matière de santé mentale.
Ça, c'est d'ailleurs un exemple pour nous, je dirais, tu sais, les non-autochtones de donner de l'importance aux aînés. Tu sais, on sent que chez les Autochtones, ça a une place primordiale. Mm-hmm. Puis effectivement, il y a une mémoire, il y a quelque chose avec ça.
Oui. Alors, ce processus comprendrait l'apprentissage à travers la découverte de récits historiques. L'objectif du programme Illumination serait double. Premièrement, découvrir les blessures historiques, à la fois personnelles et communautaires, qui contribuent au stress, à la détresse et, en fin de compte, aux disparités en matière de santé mentale actuelle, dans un esprit de compréhension et d'auto-compassion. Et deuxièmement, découvrir les domaines de force et les possibilités de capitaliser sur ces forces. Il sera essentiel que les séances individuelles ou de groupe d'illumination soient dirigées par des aînés de confiance de la communauté en raison de la méfiance de nombreux peuples autochtones à l'égard de la recherche et des chercheurs enracinés dans des abus passés. L'affirmation de la légitimité du chercheur dans la représentation authentique d'un désir de promouvoir le bien-être mental devra être développée par l'engagement interculturel progressif auprès des membres de la communauté sous l'approbation des aînés de la tribu. Les connaissances autochtones et la possibilité de décortiquer les pensées et les émotions liées à l'expérience vécue des Autochtones dans ce contexte permettrait à l'individu et à la communauté de commencer à développer une compréhension du pourquoi derrière les impacts du traumatisme intergénérationnel et du développement désorganisé de l'identité. Tu remarques, Yvan, qu'on en revient toujours à l'identité.
Ouais, ouais. Il y a eu une perte d'identité, c'est sûr. On a comme moi, je dirais qu'on a, vu de l'extérieur, on a comme dénaturé, en fait, les peuples autochtones, d'une certaine façon. Oui.
Alors, éclairer le pourquoi permet à l'individu de commencer à reconnaître que son expérience vécue et sa capacité personnelle réduite à maintenir son bien-être mental sont des sous-produits du traumatisme colonial et de la dépendance forcée du gouvernement fédéral plutôt que le résultat d'une faiblesse personnelle ou d'un manque de courage. Essentiellement, le groupe serait dirigé par des récits et des activités de renforcement des capacités qui améliorent les domaines de force tels que les forces personnelles liées aux ensembles des compétences, aux intérêts et aux forces communautaires telles que la situation foncière, les connaissances tribales, la sagesse et l'accès aux pratiques de guérison et d'autonomie.
Ouais.
Alors, il reste à voir si ce projet verra le jour. Mais
c'est rempli d'espoir, en tout cas.
Oui, et d'intelligence,
ouais, une chose, je voulais ajouter, Pierre, tu sais, je considère qu'il y a eu des fautes dans le passé, mais en même temps, pour aller de l'avant puis pour que les gens non autochtones fassent partie de la solution, je trouve qu'il faut qu'on aille de l'avant, justement, il faut pas qu'on ressente un genre de culpabilité ou par nos ancêtres ou ces choses-là. Moi, je pense qu'il y a eu des erreurs, il y a eu des choses qui ont été faites. On le disait tantôt, les peuples souvent ont été dénaturés parce qu'on organisait un peu leur vie alors que peut-être c'est pas ça qu'ils voulaient. Mais je trouve qu'à partir de maintenant, on devrait tous dire, bon, on regarde vers l'avant, on constate des choses, mais allons-y vers l'avant, puis tentons de part et d'autre de s'entraider puis de se comprendre.
On tourne la page.
On tourne la page.
Sans rien oublier.
Sans rien oublier.
On écrit un nouveau chapitre.
Mais pour pas, tu sais, s'auto-flageller, tu sais, moi, c'est ça que des fois, j'ai l'impression qu'on peut glisser vers ça, puis je pense que ça serait bien plus positif aussi d'aller de l'avant, puis de tenter nous-mêmes, tu sais, d'en parler, de que les gens en parlent dans les médias, d'ouvrir un dialogue, puis d'aller de l'avant à tout le monde ensemble.
En tout cas, en lisant cet article-là, moi, j'ai trouvé qu'on voit qu'il y a des gens à travers le Canada, des non-autochtones, qui comprennent la situation.
Ouais.
C'est un départ.
Oui, merci beaucoup, Pierre, pour ce sujet. Donc, la santé mentale chez les peuples autochtones.
Thank you. Souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube, antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca.
Quelques temps avant de terminer ce rendez-vous de Folie douce, Pierre, on va, comme d'habitude, faire la nomenclature des chansons qu'on a entendues cette semaine à l'émission.
Oui.
La première, Sick.
Oui, de Miel.
On a entendu La routine.
De Un tel.
En deuxième demi de l'émission, Si jamais.
Oui, de Laurence Saint-Martin.
Et à l'instant, Les astres.
De Laura Cahen.
Bien, merci beaucoup pour ton choix musical ainsi que pour ton travail en régie comme à chaque semaine.
Bienvenue, mon cher.
Et merci aussi pour ton sujet à l'espresso et à l'espresso allongé, la santé mentale chez les peuples autochtones. On en a appris beaucoup, puis ça donne le goût de s'informer encore plus. Merci pour ça. Notre invité, en fait, cette émission aussi, qui a été une bonne partie de l'émission avec nous, Péloïs Minaïk, Jean-Guy Pinette, comme je le connaissais il y a 40 ans, nous a parlé de son histoire. C'était fort intéressant. Merci d'avoir été des nôtres. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.
Un vent nouveau souffle sur le compas. Il vient de Miami. Il est fort et fait un vacarme assourdissant. Les gens accourent, croyez-moi, il y a de la joie. Vacam, de son vrai nom, est à Montréal le 24 mai à partir de 22h à la salle Le Carlton Signature, 88-60 Langelier à Saint-Léonard. Faites du bruit de la nouvelle, un vacarme. Vacam, le groupe de Kenny Desmangles est à Montréal le 24 mai et pour pas cher, après son premier album très bien reçu, $50. À la porte, $60 et 80 en VIP, sous Eventbrite et dans les commerces habituels. Deux invités sont de la partie, le groupe Checké de Montréal et Armstrong Jeune featuring sur le premier album de Vacam. Information 514-661-0981, 722-3333, 292-4524. Commodité par Cam Transfer, Marcus Poirier, Maître Suzy Jean Notaire et Steve Anna.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le samedi 9 août 2025, Grand Gala, 29e anniversaire, CPS, au Complexe La Providence, 65-66 Jarry Est, avec Didier Garengo. Souper, 5 services, participation, $120. Artistivité, tactique, polo, bateau Moïse, looting, Modeline Raymond et Dieudonné La Rose. Cocktail, dès 19h, spectacle, 19h45. Animation, Bernier Sylvain et Priscilla Lila. Commanditaire officiel, Boutique de l'Amitié. Front, Benjamin, porte-parole du gala. Avec le support, Willy Morfleur, Manus Poirier, Zazou, lavage automobile. Jean-Robert Gué, courtier hypothécaire. Martine Joseph, conseillère en sécurité financière. Cola et associé. Silvio Pétion, courtier hypothécaire. Essence 1804, cuisine haïtienne. Bon électricien. PBS Radio. Sonomix, Radio Centre-Ville. Carlène Resto, 31-83, Rue Jarry Est. Club Mega.
Méga Tropique, RTCMT, Michel Hilaire, Centre Investigation et Sécurité Canada, Radio Piticaï, 1280 AM, Sylvia Simoniello, conseillère en voyage, 514-574-7411, Décor Traiteur et Complexe La Providence. Billets disponibles à MGD, Thébault, Liquidation 4705, Rue Charleroi, Boutique de l'Amitié, 2480 Bélanger et Michel Studio, 91-37 Boulevard Primo. Tenue de ville obligatoire. Info 514-659-5952.
Vous écoutez Radio Centre-Ville, le 102,3 FM à Montréal, la voix de la différence, la voix des sans-voix.